le WNE, le Salon Mondial du Nucléaire. Plutôt le World Nuclear Exhibition, en anglais s'il vous plaît, il faut savoir s'exporter, c'était cette semaine au Bourget. Alors que l'Assemblée nationale adoptait, en première lecture, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, qui stipule que la politique énergétique nationale a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation énergétique finale et la consommation des énergies fossiles primaires, d'augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique et de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% aujourd'hui à 50% à l'horizon 2025. Voilà qui concerne très directement les exposants du WNE, vitrine internationale de notre industrie nucléaire qui cherche un second souffle post-Fukushima.
Bienvenue au tout premier salon international du nucléaire, le WNE. Le World Nuclear Exhibition.
Il est temps de tirer des leçons de Tchernobyl et de Fukushima. Il est temps que les citoyens se rebellent contre le pouvoir nucléaire. Relevez-nous.
Et il s'agit bien aujourd'hui d'exhibition, mesdames et messieurs. Vous êtes ici dans l'antre du nucléaire. Si vous aimez le progrès, la croissance, le nucléaire et les bifetons, vous êtes les bienvenus. Mais seulement si vous êtes invité.
Alors, on est gare du Bourget. Et donc, c'est l'ouverture du Salon mondial du nucléaire.
Le World Nuclear Exhibition, premier salon international de la filière nucléaire, organisé par l'AIFEN. Donc, c'est l'association... des Français exportateurs de nucléaire, donc qui s'est constitué en juillet 2013 avec pour but principal l'organisation de ce WNE qui devrait être une biennale, donc qui devrait s'organiser tous les deux ans.
Et aujourd'hui, donc hasard du calendrier peut-être, c'est donc le vote à l'Assemblée de la loi de transition énergétique et de croissance verte.
Exactement.
Notre pays est fortement tributaire de l'atome. Pour produire de l'électricité, aujourd'hui, nous dépendons à 75% du nucléaire, à 15% des énergies renouvelables, à 10% du thermique, c'est-à-dire des énergies fossiles.
La décision récemment votée de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75 à 50% d'ici à 2025, une réduction très progressive et timide selon les antinucléaires, ne s'est pas faite sans opposition, signe que notre histoire passionnelle du nucléaire n'est pas finie.
Filière nucléaire égale mafia d'enfer. Ici s'organise la contamination radioactive du monde. Alors c'est des petits autocollants qui sont collés ici sur la gare du Bourget. C'est pas très accueillant ça pour les ingénieurs du nucléaire du monde entier qui vont se bousculer ici pour acheter du nucléaire français, du prestigieux nucléaire français. Donc vraiment, il y en a qui ne savent pas accueillir. Hein. Si c'est ça, la croissance verte, ça démarre mal. Hein. Voilà, c'est la navette du WNE, du World Nuclear Exhibition, qui vient d'arriver. Vous attendez quoi de ce salon ?
De voir un peu ce qui se fait au niveau du nucléaire mondial, de présenter un peu notre compagnie et de voir un peu les attentes du marché. Comme dans toutes les sources d'énergie, il y a de l'avenir. Maintenant, elle est plus mitigée qu'avant 2011, elle est plus mitigée qu'avant les gaz de schiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, ça va continuer à se développer.
Vous êtes confiant ?
Oui.
C'est quand même un lieu de rencontre privilégié avec tous les acteurs du nucléaire et mondiaux. Alors, la tendance, on va dire, des marchés européens aujourd'hui, elle est quand même très... très axé nucléaire, hein. En tout cas en France. Donc voilà, on va prendre un petit peu la température, rencontrer les acteurs qui sont, à mon avis, les acteurs majeurs du nucléaire. Voilà.
Et le fait que ce salon se tienne le jour même où se vote à l'Assemblée la loi de transition énergétique, ça, vous pensez que c'est un signe ?
Pour valider le mix énergétique à l'horizon 2025, c'est ça ?
Tout à fait.
Je pense que si la population française continue à grandir comme elle grandit aujourd'hui, et tant mieux, hein, à la limite, parce qu'on a quand même une forte natalité en France, on atteindra peut-être de facto le mix énergétique à l'horizon 2025 sans rien faire, non ? Sans fermer de centrales, sans rien faire ?
Oui, donc ça ne pose aucun problème, il n'y a pas d'entrave.
Très honnêtement, non.
Assemblée nationale.
Mes chers collègues, la séance est ouverte. Je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Votants 565, suffrages exprimés 533, majorité absolue 267, pour 314, contre 219, l'Assemblée nationale a adopté. La parole est à Madame Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, je crois que nous venons de vivre un grand moment par l'adoption de cette loi de transition énergétique pour la croissance verte que le Premier ministre avait désigné comme un moment fort de ce quinquennat.
Je suis Michael Schneider, je suis consultant indépendant international dans les domaines de l'énergie et de la politique nucléaire.
Michael Schneider, comment se fait-il qu'aujourd'hui la France se retrouve être leader mondial du nucléaire avec EDF, premier exploitant nucléaire au monde, Areva, premier fournisseur d'uranium au monde?
Oui, c'est vrai, leader en dinosaure, on peut dire. Enfin, c'est vraiment une longue histoire, mais je pense que les conditions du développement du nucléaire étaient uniques comparées à d'autres pays. Cette technologie convient très bien à un système politique extrêmement centralisé, où la politique est dessinée, contrôlée par le même groupe de technocrates d'élite. C'est quand même remarquable. Nous fêtons aujourd'hui les 40 ans du programme MESMER, le premier grand programme nucléaire français de 1974, qui était une réaction à la crise de pétrole de 1973. C'est stupéfiant avec quelle continuité on a développé ce programme, droite ou gauche, quels que soient les premiers ministres ou les présidents de la République, il y a eu une continuité totale. Mais ce n'est pas un programme qui a été voté à l'Assemblée, c'était une décision gouvernementale. Même le débat qu'avait promis François Mitterrand quand il est arrivé en 1981, ça durait 8 ans et il y avait 24 députés ou 26. J'étais dans la salle, j'avais compté à l'époque pour débattre de l'avenir énergétique de la France. Et pourquoi il n'y avait pas plus de députés? Parce qu'ils comprennent très bien qu'ils n'avaient aucun rôle à jouer. C'était la décision. Les décisions sur ce sujet-là ne sont pas faites à l'Assemblée. On l'a vu encore dans le débat sur le, ou on le voit dans le débat sur la loi énergétique. On s'attendait quand même à il y avait un petit espoir d'une reprise en main politique du nucléaire. Et on ne le voit pas encore vraiment, non, dans les débats. Enfin, c'est assez étonnant comme système de fonctionnement.
Bienvenue au tout premier salon international du nucléaire, le WNE. Le World Nuclear Exhibition, au cours duquel les différents acteurs de la filière présentent leur technologie à des clients, des experts ou des décideurs politiques. Notre objectif est de mener des réflexions multilatérales, de nouer des contacts et surtout, nous l'espérons, la signature de contrats. En effet, la situation financière de notre industrie électrique est loin d'être heureuse et prospère. Mais nous comptons sur les ménages français pour se sacrifier pour la France du nucléaire. Pour parer à la décrépitude économique de notre filière, nous avons trouvé une idée en 2013. Faire un salon international
nucléaire. Le WNE, le World Nuclear Exhibition.
Mesdames et messieurs, vous êtes ici dans l'antre du nucléaire.
Valérie Giscard d'Estaing, invité d'honneur de ce salon mondial du nucléaire, et pour cause, ça a été quand même un des grands promoteurs de la filière nucléaire française. Voilà, c'est Valérie Giscard d'Estaing qui prend la parole. On parle de dinosaures.
Bonjour.
Tout le temps, j'ai considéré que la production et la distribution d'électricité étaient au cœur du progrès industriel de nos sociétés, comme l'écriture l'est à la littérature.
Les prix du pétrole brut ont été multipliés par 4
en quelques mois. Il fallait donc imaginer un grand plan.
C'est toujours Valéry Giscard d'Estaing
de production énergétique
à la tribune
qui assure la sécurité de notre production électrique et notre indépendance nationale.
Michael Schneider, vous parlez de dinosaures aujourd'hui quand l'industrie, les fleurons de l'industrie nucléaire française ou de la filière nucléaire organisent un salon mondial du nucléaire.
Quand on voit que les coûts du kilowattheure nucléaire, selon la Cour des comptes, ont augmenté de 16% en 3 ans, alors que les coûts des décentralisés et notamment du photovoltaïque ont chuté de 80%, en 7 ans, quand on voit que les prix d'EDF doivent augmenter afin de couvrir les frais, puisque EDF a perdu de l'ordre de 1,5 milliard d'euros en 2012, quand on voit que la Commission européenne qui vient de donner feu vert au gouvernement anglais pour donner des subventions, j'allais dire hallucinantes, mais étonnantes pour le moins, pour un projet d'EDF en Angleterre.
Deux EPR, hein, c'est
exactement
ça.
Exactement, la construction de deux EPR, à des prix dont on n'a jamais entendu parler, enfin, des ordres de grandeur qui sont très étonnants. Mais que la bourse, en réaction à ça, n'a pas du tout réagi avec un envol du cours d'EDF. En fait, le cours d'EDF est en baisse. Et les cours d'Areva plongent. C'est un panorama, si vous voulez. Il y a plein de signaux comme ça. Et comme réaction, la France fait un grand salon sur le nucléaire. Ça paraît vraiment orienté vers le passé plutôt que d'être orienté vers l'avenir, qui est très clairement une orientation vers des systèmes beaucoup plus décentralisés. On voit maintenant dans beaucoup de pays un changement de logique d'un modèle qui est intégré verticalement où des grandes centrales produisent de l'électricité. On le transporte sur des grandes distances et on le distribue à un consommateur vers un système où on ne distingue plus entre producteur et consommateur puisque le consommateur devient producteur. Donc il est à la fois producteur et consommateur. Parce que quand vous avez, comme en Allemagne maintenant, 1,4 million de producteurs d'électricité, comment est-ce que vous pouvez parler de producteurs et de consommateurs? Donc on a ce virement vers une logique totalement différente qui se rapprochera de plus en plus à une logique de l'Internet. C'est-à-dire, on a des flux qui vont dans les deux sens, qui sont multidirectionnels, avec des nœuds de distribution et de réglage, mais selon une logique qui est parfaitement horizontale, qui n'est plus une logique verticalement intégrée. La révolution énergétique ne sera pas télévisée. Pour décrire la rapidité du changement énergétique, revolution will not be televised. Pour moi, le salon sur le nucléaire, c'est quand même c'est un salon sur le passé. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. Will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Revenons sur notre salon, le World Nuclear Exhibition. Comme vous pouvez le voir actuellement, nos lobbies énergétiques et industriels font un super boulot. L'énergie, c'est vos smartphones, jeunes gens, vos congélateurs, mesdames, vos voitures, messieurs, et pour nous, c'est notre capital. et pour être assuré de pouvoir regarder la télé le samedi, il n'y a rien de tel qu'une bonne vieille centrale nucléaire.
Et là, c'est le stand du CEA, le commissariat à l'énergie atomique.
C'est quoi vos questions? C'est sur quoi?
L'avenir de la filière nucléaire en France par rapport à la loi de transition énergétique qui est votée en ce moment à l'Assemblée.
Oui.
Vous êtes?
Je suis Xavier Clément, je suis le porte-parole du CEA. Il y a effectivement un avenir pour l'industrie nucléaire en France dans le cadre de ce renouvellement et y compris dans les choix qui sont gravés et qui vont être gravés dans la loi sur la transition énergétique.
Et donc pour vous, c'est pas contraignant donc cette loi de transition énergétique?
Le maintien d'un parc, y compris à hauteur de 50% de la production d'électricité, nécessite de renouveler dans les 30 ans qui viennent la grande majorité des centrales nucléaires françaises. Donc il y a un vrai avenir en termes économiques et en termes d'emploi dans la filière nucléaire pour cette raison, et y compris dans le cadre de la loi sur la transition énergétique telle qu'elle est connue actuellement.
Donc vous êtes confiant pour la filière?
On est confiant dans le sens que c'est une filière qui est prometteuse d'emploi, de création de valeur économique, de postes pour des jeunes techniciens, des jeunes ingénieurs, dans des métiers de très haut niveau de technologie. Et je pense que dans le contexte actuel, on peut tous s'en réjouir en tant que citoyen.
Bernard Laponche, j'ai d'abord travaillé au CEA sur la physique des réacteurs nucléaires d'ailleurs pendant une douzaine d'années. Après j'ai été très actif et militant à la CFDT et même permanent. Et à cette époque-là, au début des années 70, j'ai vraiment changé d'avis sur la question nucléaire. J'ai pensé que c'était une technologie trop dangereuse. Et après j'ai travaillé professionnellement sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables puisque j'ai été directeur général de la FME, qui est l'ancêtre de l'ADEME. Et ensuite avec l'association Global Chance, qui continue d'ailleurs à être active dans ce domaine.
Alors qu'est-ce que vous pensez donc du texte de loi de transition énergétique qui a été voté?
D'une part, je pense qu'elle ne va pas assez loin sur cette notion de transition énergétique qui pour nous implique la sortie du nucléaire. On voit mal une transition énergétique réussir en gardant cette espèce de dinosaure issu d'une mentalité productiviste de la fin du 19e siècle. Je veux dire, c'est quand même assez grave, cette obsession française sur le nucléaire. L'autre façon de la juger, c'est de se dire, par rapport à la situation actuelle, par rapport aux forces politiques en présence, est-ce que cette loi représente un progrès? Alors, il y a un progrès, qui n'est pas considérable, mais il y a un progrès en ce sens que, pour la première fois dans l'histoire, c'est l'objectif de réduction très important de la consommation d'énergie. Et ça, c'est vraiment important. Donc si la loi est appliquée, c'est quand même intéressant sur ce plan-là. Apparemment, la question de Fessenheim, alors le président de la République continue à dire qu'il n'y a pas de problème, on arrêtera Fessenheim. Cela dit, on s'approche de plus en plus de l'échéance, puisque c'était 2016. Ça, j'aimerais bien le voir. Donc là, il y a un point d'interrogation. Est-ce que l'engagement, qui est quand même pas très compliqué, je veux dire, arrêter une centrale, c'est pas grand-chose. Je veux dire, ça n'a rien de calamiteux, même pour les pro-nucléaires. Et là, ça sera un peu la pierre de touche par rapport aux engagements. La contribution du nucléaire à l'énergie dans le monde et même à la production d'électricité diminue régulièrement. 18% au début des années 2000, et puis maintenant, c'est 10%. L'accident de Fukushima a quand même marqué les politiques des différents pays. Il y a beaucoup de pays qui prétendent qu'ils veulent faire du nucléaire. Très souvent, c'est parce qu'en fait, ils visent plus ou moins de posséder un jour l'armement nucléaire. Et là-dessus, la politique de la France, en particulier du CEA, est dramatiquement dangereuse quand on voit qu'on propose à des tas de pays qui sont dans des situations politique très incertaine et économique, pas brillante, de leur apporter sur un plateau des centrales nucléaires. Alors en général, ça ne se fait pas. Et la France, qui avait beaucoup utilisé l'argument de l'exportation, on a dû vendre une dizaine de réacteurs nucléaires en bientôt 50 ans, ou 40 ans. Donc on ne peut pas dire que ça a été un succès de l'industrie française. L'industrie française a fait des réacteurs pour la France. Et elle en a fait beaucoup trop. En ayant trop, on exporte de l'électricité qui est considérée comme quelque chose de très intéressant. En fait, ce n'est pas intéressant du tout parce que ça ne rembourse même pas les investissements. Donc la stratégie industrielle nucléaire de la France, malgré tout les plumes de paon dont elle se pare, n'est pas du tout une réussite. Hein. On en a fait plein en France, payé par, ben, en gros par les Français, mais le succès à l'extérieur n'a pas été au rendez-vous. Du point de vue de la stratégie économique et industrielle, ça a été une erreur, c'est-à-dire que ça a coûté extrêmement cher, ça a drainé l'épargne publique dans les années 70, et la France a pris du retard sur les autres investissements industriels, ce qui n'est jamais dit. On considère ce programme nucléaire comme une merveille. En fait, on aurait dû en faire la moitié. C'est très grave, parce qu'on paye aujourd'hui ces erreurs des années 70, c'est clair.
Excusez-moi, un instant, j'entends, oui, un compteur Gégère. Encore une fuite, cette fois sur la centrale de Nogent, l'accident nucléaire. Bon, nous le savons, c'est un risque à courir, hein, mais pour les autres. Alors, au cas où cette alerte soit sérieuse, s'il vous plaît, nous avons prévu pour nos exposants un kit de survie avec des parachutes dorés. Et comme Nogent n'est qu'à 80 km de Paris dans ce cas, c'est 10 millions de personnes qui seraient directement concernées par cet accident. Heureusement, depuis la Convention de Paris, la responsabilité des opérateurs nucléaires est limitée à 91 millions d'euros, ce qui fait 9,10 € d'indemnité pour chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, nous allons devoir fermer prématurément notre salon WNE. Nous vous remercions pour votre participation et rassurez-vous, vos enfants et petits-enfants entendront encore longtemps, longtemps parler de nous. Encore longtemps, longtemps parler de nous.
Jean-Jacques Delfour, vous êtes philosophe, essayiste. Et là, vous êtes assez remonté contre le Salon mondial du nucléaire qui vient de se dérouler au Bourget. Vous l'avez appelé le World Nuclear Death Exhibition, le Salon mondial de la mort du nucléaire. Comment vous traduiriez ça?
Écoutez, si c'était le cas, ce serait festif, mais c'était plutôt le Salon mondial de la mort nucléaire. Je vais ça en tête parce que ce salon est une chose incroyable. Hein. Après Fukushima n'est pas... Quand on dit après, on a tort. On doit dire depuis Fukushima, qui continue sans arrêt. Tchernobyl est aussi en activité, la catastrophe est toujours active. Et donc tous ces gens pensent qu'on peut faire de l'industrie comme si rien ne s'était passé. Alors que ce qu'a démontré l'affaire de Fukushima pendant 3 ans, c'est l'incompétence des ingénieurs, l'absence de technologie appropriée. Et donc depuis 3 ans, Fukushima, c'est la preuve, la démonstration que face à une catastrophe, ils n'ont rien prévu de solide, ils n'ont rien prévu de sérieux. Et d'ailleurs, un des arguments de vente des Japonais qui essayent de vendre des centrales nucléaires ailleurs, c'est que comme ils ont eu une catastrophe, ils sont prêts. Alors qu'en réalité, les réacteurs fondus sont toujours dans le sous-sol de l'archipel et personne ne sait comment les récupérer. Personne ne sait comment arrêter la radioactivité énorme, gigantesque, qui est répandue dans l'océan.
Dans cette tribune que vous avez co-signée avec Cézine Topchou, qui est historienne et sociologue des sciences, vous parlez d'irresponsabilité organisée.
En effet, très tôt dans les années 50, on s'est aperçu de la part des autorités nucléaires elles-mêmes, qu'il y avait des dangers extraordinaires, et un rapport a été publié par Brockhaven, publié en 57, comparé aux catastrophes réelles, qui étaient déjà très minimisées, mais en fait c'était la première fois qu'on le faisait. Les industriels du nucléaire qui ont dit, il faut créer un régime juridique exceptionnel. Puisque c'est exceptionnel, le nucléaire, il faut un régime exceptionnel, et exceptionnel dans l'irresponsabilité, puisqu'au fond, tout ce qui a été fait depuis 1957, repris dans les pays européens par la Convention de Paris de 1960, c'est un effort juridique pour créer une irresponsabilité de droit. Quand on fait ça, on casse le rapport entre les risques et le dommage et le dédommagement et la sécurité. On enlève le maintenant de la responsabilité, on n'a plus à dépenser d'argent pour la sécurité, à quoi bon, puisque en cas d'accident, on ne paiera pas. Ce dispositif juridique d'exception a rendu possible l'industrie nucléaire. Parce que si l'industrie nucléaire avait été soumise aux mêmes règles que les autres industries polluantes, personne n'aurait jamais mis un centime dans une entreprise aussi risquée, aussi coûteuse en cas de danger. Il y a une stratégie depuis 30 ou 40 ans que Cézanne Topchou a bien montré, l'énorme investissement en intelligence, en sondage, en argent, en fonctionnement d'EDF pour banaliser, pour rassurer massivement des interventions dans les écoles, dans les établissements d'enseignement, dans les associations. Il y a un très large financement associatif qui permet de diffuser l'idée que finalement, Areva, EDF, ce sont des gens gentils, aimables, sympathiques. Et donc, il y a toute une propagande qui a été construite sciemment, volontairement, pour protéger l'industrie nucléaire, afin de protéger la source de l'industrie militaire, enfin du nucléaire militaire, c'est-à-dire le plutonium, qui permet de faire des bombes extrêmement efficaces.
Merci Jean-Jacques Delfour.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, Yuki Takahata,
Vous êtes japonaise, journaliste, vous habitez à Paris. Quelle est la situation aujourd'hui à Fukushima?
La situation n'est pas du tout maîtrisée. En fait, l'accident continue. Il y a maintenant, au début, c'était 3000 personnes par jour, enfin pendant assez longtemps. Maintenant, il y a 5800 personnes par jour. C'est énorme.
Qui travaillent sur le site.
Et c'est dans des conditions extrêmement difficiles et ils sont fortement irradiés. Et comme ils sont irradiés, ils ne peuvent pas continuer pendant très longtemps. Donc, voilà. Vous voyez, on a besoin des gens qui vont être irradiés pendant de très longues années. Et le gouvernement dit que tout est sous contrôle. C'est vraiment mépriser toute la population qui souffre et l'accident continue. Et je voudrais qu'en France aussi, que gens comprennent ce que cela signifie. Et alors que pour produire l'électricité, il y a d'autres moyens, beaucoup moins dangereux, et qui respectent plus la vie humaine.
いつの時代も毒を持った悪い奴らがいて、その能力を独占するために偽物の時間を作り出し、物質に頼る文明を発達させるために破壊という科学を生み出して、戸惑う人々に対して自分たちの身勝手なヘリクツを定義つけるために宗教を操り、その裏でエネルギーを牛耳って、経済というお金のシステムを構築してきた代わりに偉大な能力を失ってしまった。
La situation n'est pas du tout maîtrisée. En fait, l'accident continue.
Et pour aller plus loin, la France nucléaire ou l'art de gouverner une technologie contestée de Cézine Topchou et aussi Avenir radieux, une fiction française, une pièce de théâtre d'investigation de Nicolas Lambert à l'affiche du Grand Parquet à Paris jusqu'au 2 novembre.
Oh, ma brique est court.